L'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Immo et achetez-louer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Kioké.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission réalisée avec le site achetez-louer.fr. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour,
bonjour
Alexandra.
Bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Alors chaque mois, vous le savez, on vous propose le meilleur des actus, des conseils, des réflexions pour mener à bien votre projet, que ce soit pour acheter ou pour louer. Ma chère Alexandra, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce numéro ?
Eh bien, une nouvelle fois, la revue de presse, évidemment, spéciale IMO, toutes les news, les infos à retenir jusqu'au plus insolite. Et puis ce mois-ci, on s'est posé la question, investissement locatif, êtes-vous prêt à franchir le pas ? Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'immobilier pour le louer après ? On en parlera évidemment tous ensemble. Et donc, pour parler de tout ça, nous sommes avec Stéphane, évidemment, Fritz, le président de Guyoquet, Bérénice et Elodie.
Bonjour.
Voilà nos chroniqueuses qui nous ont rejoindre. Effectivement, on aura un micro-trottoir proposé par Elodie sur cette question et puis l'édito de Bérénice. On terminera comme d'habitude par la dernière rubrique de ce magazine, c'est la météo de l'IMO, une rubrique que vous connaissez par cœur, Alexandra.
Eh oui, bien sûr, la rubrique de la météo de l'IMO. C'est vrai que chaque mois, nos journalistes épluchent. On va passer. Alors, attendez, je me suis un petit peu perdu.
Non, la météo de l'IMO, les tendances pour l'achat IMO, est-ce qu'il faut acheter maintenant ? Est-ce qu'on a des taux qui sont toujours aussi bas ? Est-ce que on le verra ? Les gens ont envie d'investir. En tout cas, autant de sujets qui seront bien sûr commentés par Stéphane Fritz, le président de Guyoquet. Je vous propose de démarrer tout de suite de l'immobilier à l'habitat. C'est parti, la revue de presse.
De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse.
Et chaque mois, nos journalistes épluchent la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops et les chiffres. Et justement, avec les confinements en répétition, les Français éprouvent l'envie de quoi ? Eh bien, de déménager. Et on va tout de suite écouter Nicolas Tarade à ce sujet.
Paris, métro, ligne 1, station Châtelet, dans les couloirs, sous forme de labyrinthe, la balade prend désormais des allures de voyage à travers la France. Depuis l'été, les campagnes de communication se multiplient sur des affiches grand format. Des départements ruraux font la promotion de leur territoire avec un objectif clair. Chacun espère attirer chez lui ses Parisiens qui se disent prêts à quitter la capitale pour prendre la clé des champs. Selon le baromètre 2021 réalisé par l'officiel du déménagement par Opinion Way, 25% des Français déclarent vouloir déménager cette année. Un énorme bond de 10 points par rapport à l'an dernier. Une génération se distingue, les moins de 35 ans, près de 50% d'entre eux se disent que l'herbe est plus verte ailleurs. L'étude montre que parmi ces jeunes, 55% d'entre eux vivent actuellement en appartement et souhaitent bouger vers un cadre plus vert et plus familial. Assez logiquement, ces attentes sont surreprésentées en Île-de-France. Dans cette région, 29% des habitants comptent déménager en 2021, soit 4 points de plus que l'an dernier et 6 points de plus que les aspirations à bouger dans les autres régions. Avec le renforcement du travail à distance, le déménagement est devenu possible pour de nombreux habitants qui peuvent repenser leur temps de trajet dans les transports, mais aussi choisir des espaces de vie plus spacieux à des prix abordables. Des citadins qui disent avoir besoin d'un espace dédié au travail chez eux, autre qu'une table dans le salon. Au final, à force de passer tellement de temps dans leur logement, ils se rendent compte de ses limites.
Et voilà, effectivement, ces affiches dans le métro qui se succèdent. On a de plus en plus de régions qui font de la pub. Stéphane, bon, vous prenez jamais le métro, mais c'est vrai qu'on voit que, il y a un vrai marketing qui est fait de la part des régions pour attirer, les prospects, pour découvrir, pourquoi pas investir.
Alors, cette tendance, au départ, à la sortie du premier confinement, elle était marquée sur la consultation des sites, et on l'a vu tout l'été, et puis maintenant, elle se prolonge encore. Plus de 20% de maisons en plus vendues chez Guyoquet sur le territoire national. On le voit bien, cette envie d'aller vers un peu plus de vert, et un peu plus à l'écart des grandes agglos, ça se vérifie à Paris, mais ça se vérifie dans les grandes agglos, et encore maintenant sur les villes moyennes. Mmh. Donc je comprends que les départements fassent de la publicité pour en attirer le plus chez eux.
Alors excellente transition, puisque malgré la crise, les ventes de maisons sont en hausse en Île-de-France. On continue avec Nicolas qui nous explique tout sur ce phénomène.
Des grandes maisons en grande couronne, selon la dernière note de conjoncture publiée par les notaires du Grand Paris. En 20 ans, davantage de grandes maisons sont vendues en Île-de-France. 43% d'entre elles comptent au moins 6 pièces en 2020, contre seulement 28% en 2000. Conséquence, la progression de la part des grandes maisons se fait au détriment des petites maisons de 3 et 4 pièces, qui ont représenté tout de même 30% des ventes en 2020, contre 46% en 2000. Autre enseignement à retenir de cette étude, les prix au mètre carré baissent quand la surface augmente. Alors si avec une surface plus grande, le budget augmente, le prix au mètre carré, lui, baisse. Les notaires notent qu'en grande couronne, le prix au mètre carré décroît fortement avec le nombre de pièces, de 4 040 € par mètre carré pour les studios à 2 780 € par mètre carré pour des grands appartements de 4 pièces et plus. La petite couronne, elle, se situe dans une situation intermédiaire avec une forte diminution des prix au mètre carré quand la taille augmente. En revanche, les grands appartements de 5 pièces et plus sont beaucoup plus chers au mètre carré que les 4 pièces. Côté prix, d'ailleurs, en grande couronne, l'évolution des prix des appartements est assez homogène. De plus 11,3% pour les deux pièces à plus 15,1% pour les studios, pour une moyenne de grosso modo 12% sur les 5 dernières années. Le ralentissement qui se dessine dans Paris n'a donc pas touché la grande couronne au quatrième trimestre 2020.
Et on va ouvrir notre sujet du jour à présent, les Français et l'investissement locatif. On le sait, les taux immobiliers sont toujours très bas et certains se sentent poussés des ailes. Alors justement, Bérénice, vous nous avez décrypté une étude sur le sujet. Les Français sont-ils toujours intéressés par l'investissement locatif ?
Eh bien oui, bien que 2/3 pensent que bon, en ce moment la période n'est pas propice à l'investissement, 56% des Français tout de même sont prêts à investir dans le locatif ou l'ont déjà fait. Alors la crise n'impacte donc pas la confiance des Français dans l'immobilier, hein, puisque 87% considèrent la pierre comme un investissement, je cite, « concret, sûr et rentable ». Cependant, seulement 15% des Français sautent le pas de l'investissement locatif. À votre avis, pourquoi ? Il y a des freins. Quels sont ces freins ?
Parce qu'ils ont peur que les gens ne payent pas le loyer.
Exactement.
Ce serait mon principal frein.
Eh bien, ça, c'est le premier ex aequo avec un autre frein. Stéphane, est-ce que vous avez une idée ?
Le fait que ce ne soit pas loué.
Alors... Non. La deuxième crainte, en fait, ce sont les démarches. En fait, la complexité des démarches. Il faut aller voir un notaire, il faut quand même se renseigner sur Internet, faire les visites. Il y a beaucoup, beaucoup de démarches qui effraient. Le deuxième frein, c'est la crainte du prix des travaux de rénovation. Et la troisième, la crainte de ne pas pouvoir investir sans apport. L'apport fait énormément peur. L'investissement locatif reste cependant un des investissements préférés des Français, puisqu'il arrive en deuxième position. Le premier est l'investissement dans la résidence principale, le deuxième locatif. Donc, troisième, c'est investissement dans une résidence secondaire. Et puis vient ensuite les livrets, les assurances-vie, l'épargne. Donc en fait, la pierre est vraiment l'investissement préféré chez les Français. Il faut savoir qu'il y a un profil type de l'investisseur en 2021, dans le locatif hein, toujours. Il est âgé entre 25 et 34 ans. Il vit dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Et il souhaite investir dans le sud-ouest de la France. Sud-ouest très à la mode en 2021.
C'est un homme ou une femme, Bérénice ?
L'étude ne me le dit pas, mais comme vous voulez, Fabrice.
Donc 25, 34 ans, c'est ça ?
Les yeux bleus.
Je rigole.
En moyenne, 85% des Français qui souhaitent investir dans le locatif ont un budget allant jusqu'à 200 000 euros.
D'accord. 200 millions. Est-ce que ça se vérifie sur le terrain ? C'est un peu le portrait robot que vous avez en agence ?
Bon, alors ça, c'est multiple. Les investisseurs, c'est 7% du marché. Donc c'est un marché extrêmement dynamique aujourd'hui. Je reviens sur ce que dit Bérénice pour répondre aux craintes, notamment les premières, les deuxièmes et peut-être même les troisièmes, aller voir un agent immobilier. Un agent immobilier, déjà, il va vous sécuriser, il va faciliter l'intégralité des démarches. S'agissant du locataire qui ne paierait pas, il y a des garanties de loyer impayées qui vous permettent de vous sécuriser.
Bien sûr.
Pour la troisième dont je parlais, qui est éventuellement le fait que ce soit pas loué, l'agent immobilier, il a la main pour éventuellement relouer au moment où déjà le locataire en place donne sa dénonce. On a la possibilité déjà de rechercher un autre locataire. Il y a assez peu de carences en réalité et on n'en constate pas. Est-ce que c'est un marché dynamique ? Est-ce qu'on constate si c'est bien une personne qui est un homme, une femme à 34 ans et au moins 200 000 ? Oui, c'est à peu près en moyenne l'investissement des gens dans le locatif. Oui.
Mmh. Alors, vous avez répondu effectivement vacances locatives ou du moins impayées. L'agent immobilier est là et a des solutions. Qu'est-ce qu'on fait pour la phobie administrative ? Ceux qui se disent « Oh là là, mais c'est compliqué, il faut aller voir des gens que je ne connais pas, notaire, avocat, les garanties, les assurances. »
Vous donnez tout à votre agent immobilier, il gère le bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lui confiez l'achat, si vous lui confiez l'achat, vous lui confiez la gestion, la location, il va s'occuper de la garantie de loyer impayé, il va prendre une partie de votre loyer, 6-7-8%. Non, c'est 6-7%. Okay. C'est rien en réalité en comparaison de ce que ça peut apporter en gestion locative. La gestion locative, essayez-la seule, essayez-la avec un agent immobilier, c'est incomparable. Vous avez payé 40 euros par mois sur votre loyer, c'est rien du tout en comparaison de tout ce que ça vous apporte comme service et comment ça vous sécurise. S'occuper de rien en réalité, de rien. Donc sur la phobie administrative, ça y répond pour le coup pleinement.
Parce que quand le locataire ne paie pas, c'est parfois une galère qui peut durer jusqu'à des années. Moi, j'ai une copine, ils ont mis 2-3 ans à expulser le locataire qui ne payait pas.
C'est pas 6-7% par mois, c'est 100% du loyer par mois qui ne rentre pas.
Et pour le coup, là, l'assurance loyer impayé, ça vaut vraiment le coup parce que c'est en moyenne 2 à 3% du loyer, ce qui est rien du tout. C'est vraiment la tranquillité et vraiment, c'est vraiment quelque chose à prendre. Et c'est vrai que la gestion locative, ça permet, c'est apaisant en fait. On sait qu'on est tranquille, qu'on n'a rien à faire, on n'a pas de soucis à avoir, on n'est pas appelé le dimanche soir parce que le chauffe-eau ne marche plus. C'est vrai que c'est la tranquillité.
Et puis dans le choix du candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment vous pouvez, vous, en particulier, savoir si c'est le bon candidat? Le bon candidat, il est toujours bon au début quand il a envie de louer. Et comment demain? Donc aujourd'hui, la vérification de son patrimoine, de ses garanties, de ce qu'il peut apporter comme salaire, est-ce qu'il est bien en CDD, pas en CDD, est-ce que les papiers sont vrais et pas vrais? On a la possibilité de vérifier aujourd'hui les faux si jamais il y en a. La gestion locative, c'est, je pense, à mon sens, la bonne idée. Et je sais que je prêche pour ma paroisse quand je dis ça, mais je suis moi aussi client de ça. C'est la bonne idée pour gérer ses biens en investissement.
Ouais, et puis surtout, beaucoup de gens aussi n'ont pas le temps de le faire, il faut le dire. C'est du boulot, donc il faut mettre en regard effectivement ces quelques pourcents, ces quelques dizaines d'euros par mois versus le temps que vous allez gagner à le faire. À vous entendre, on se demande encore pourquoi il y a des gens qui le font tout seul, hein, Stéphane. Mmh. Bon, essayez et testez. Bérénice.
Non, je voulais juste aussi apporter une précision parce qu'on ne le sait pas, mais on peut parfois défiscaliser aussi la gestion locative. Il y a certains statuts qui nous permettent de défiscaliser. Donc, certaines personnes disent « Ah non, ça va me coûter de l'argent ». Oui, mais en fait, c'est de l'argent qu'on peut récupérer d'une certaine manière sur les impôts aussi.
En LNMP.
Exactement.
Notamment
loueur de meublé non professionnel. Exactement.
Bon, il faudra qu'on en reparle. Effectivement, un statut très intéressant. Et on voit qu'il s'applique parfaitement, effectivement, à l'investissement en locatif. Bérénice, vous restez avec nous. Merci à vous pour cette chronique. Merci à Nicolas Tarade également. Tout de suite, on va voir si les Français ont envie d'investir. C'est l'heure de notre micro-trottoir, les mots de l'IMO.
De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'IMO.
Élodie, vous êtes partie à la rencontre des Parisiens, voilà, que vous avez rencontrés dans la rue pour leur poser justement cette question.
Oui, la question c'est, est-ce qu'ils sont prêts à faire un investissement locatif et surtout s'ils pensent que c'est une bonne idée? Le bilan était plutôt mitigé, je ne vous le cache pas.
L'immobilier, évidemment, ça rapporte, surtout en ce moment. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été épargnant, on va dire.
J'ai été propriétaire d'un appartement à Quimper. Et donc, j'ai acheté un petit studio, 18 mètres carrés, que j'ai gardé pendant 7 ans. Et donc, j'ai eu des mois difficiles pour le louer. Et j'ai plus envie de m'emmerder avec ce genre de produit. Moi, personnellement, j'investis dans des SCPI.
Je préfère gagner moins et avoir une société de gestion qui gère des biens immobiliers pour des entreprises ou des commerces. Et il n'y a aucun souci de gestion.
Un appartement, surtout à Paris, je pense qu'au fil des années, je pense que ça peut rapporter gros, je dirais. Oui, pourquoi pas. Si j'avais l'opportunité, le moyen de le faire, je pense que je le ferais.
Ça peut rapporter gros, et puis on entend aussi, ça fait suite à ce qu'on disait, quelqu'un qui n'a plus envie de s'embêter, le dit-il dans ses mots fleuris.
Je vous le redis, si vous passez par un agent immobilier, vous n'en occupez pas. Par contre, ce monsieur investit dans les SCPI. Les SCPI, elles ont la même vocation, hein, ça reste de l'immobilier quand même. C'est juste que par l'intermédiaire d'une foncière, d'investir, d'acheter et de vendre, et lui, il a juste une plus-value dessus. C'est comme une action.
SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Alors, on n'achète pas qu'un seul bien, on a un portefeuille. Voilà.
C'est pas vous qui achetez, c'est la foncière qui achète. Vous y mettez des sous et quand la plus-value arrive, vous retouchez un petit peu d'effet des droits de gestion. Donc, aujourd'hui, le faire pour vous et le donner à une agence immobilière, c'est un peu plus rentable. Mais il a raison de le dire, c'est beaucoup moins rentable à SCPI, mais ça reste encore un placement immobilier.
Est-ce que ça peut rapporter gros?
SCPI ?
Non, mais d'acheter un appartement pour le louer après, pas vraiment.
Mais regardez tout autour de vous, vous êtes plein d'expériences comme ça qui sont racontées, où les gens ont acheté 400 000 euros et 10 ans plus tard ont vendu 650, quoi. c'est 250 000 euros, c'est énorme. En plus d'avoir capitalisé et de se l'être fait rembourser, derrière, vous avez de vraies plus-values. Alors, les plus-values ne sont pas aussi fortes que ça maintenant, mais bien évidemment que ça peut rapporter grand.
Et pour les coulisses, hein, ce monsieur qui avait acheté un logement à Quimper, c'est vrai que parfois on peut avoir de la malchance d'acheter un appartement pour, par exemple, un étudiant, mais que le voisin nuit à toute la propriété. De fait, le logement a mauvaise réputation, il s'en va et il n'est plus jamais reloué. Il y a quand même un facteur chance sur l'environnement, où est-ce qu'on achète.
L'environnement, c'est pour ça que je vous dis qu'une agence, elle peut au moins vérifier ça et vérifier l'intégralité. Parce que souvent, quand ils ont la gestion locative, ils ont aussi la copropriété. Donc, ils sont aussi, ils sont aussi gérants de la copropriété. Et elles vivent ensemble, après, ça, évidemment, on ne place pas un investissement locatif juste parce qu'il y a un mauvais voisin. Quoi.
Bérénice.
Oui, juste pour en revenir sur les SCPI, il y a aussi des inconvénients. Hein. Il n'y a pas que des avantages, évidemment. Il y a aussi des risques. Ce n'est pas si merveilleux que ça. Enfin, c'est comme l'immobilier. Il y a des inconvénients, il y a des avantages. Mais il faut bien étudier la question aussi.
En tout cas, c'était intéressant d'avoir cette panoplie de témoignages. Voilà, on voit que les gens ont des appétences très différentes. Et quand même qu'il y en a un certain nombre qui souhaitent investir. L'investissement locatif qui a le vent en poupe. Allez, on continue justement en parler dans un instant, la météo de l'IMO.
De l'immobilier à l'habitat, la météo de l'IMO.
Alexandra, c'est l'heure de la météo de l'IMO. On rappelle le principe, hein, chaque mois, on s'intéresse aux grandes tendances chiffrées du marché de l'immobilier, le neuf, l'ancien, les taux de crédit, etc. Vous nous dites si le climat est plutôt favorable ou pas. On en parlait à l'instant, on sait que les Français, grâce à Bérénice, sont plutôt en forme. Et qu'en est-il effectivement des plus jeunes?
Eh bien, les Français et l'immobilier, c'est une véritable love story parce que oui, selon une étude récente, malgré le climat anxiogène, on en parlait avec Bérénice, c'est 67% des 25-34 ans qui veulent devenir propriétaires dans les 5 ans à venir. Les Français sont inquiets pour la situation du pays, mais pas vraiment pour leur situation personnelle. Ils sont donc prêts à investir. On constate également que malgré des freins à l'accession au crédit, les primo-accédants sont plus confiants que la moyenne et pensent avoir les moyens suffisants pour faire une première acquisition à 60%. Donc pour résumer, oui, les gens ont envie d'investir. On le voyait, les transactions marchent bien depuis le début de l'année. Ça devrait continuer. Donc oui, les gens ont vraiment envie d'acheter un bien immobilier.
Et en particulier, effectivement, les jeunes hein, qui, ben voilà, on se disait, peut-être plus confiance. En tout cas, c'est les primo-accédants qui se disent, c'est le moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez sur le terrain, Stéphane?
Oui, on le voit parce que les loyers sont assez élevés aujourd'hui. Avec le coût de l'argent qui est assez bas, entre 750 euros de loyer ou 780 ou 90 euros l'achat, enfin, vous faites la culbute. Faites le pas tout de suite, vous passez le pas tout de suite, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, oui, les jeunes, aidés de leurs parents, de leurs grands-parents, en ce moment. Acquiert des biens de plus en plus fort.
En tout cas, projette hein, 60% donc dans les 5 années à venir. Bérénice.
Et oui, moi j'avais une question pour Stéphane aussi. Est-ce que vous avez remarqué, après le confinement, qu'il y avait plus d'investissements dans le locatif du fait que les gens n'ont plus confiance dans les actions, dans la bourse? Ils ont vu tout s'effondrer au moment du confinement. Donc est-ce qu'ils se sont dit, ah bah, le meilleur placement, en fait, c'est peut-être la pierre?
On a vu un effet inverse, en fait. Évidemment, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que la bourse, c'est pas ce qui va de mieux, parce que ça monte et ça descend, l'immobilier, ça fait que monter, doucement par moment, ça peut éventuellement s'effondrer, c'était le cas dans la crise des subprimes, ponctuellement, sur 3-4 ans, pour ensuite remonter, donc ça remontera, et c'est un marché durablement porteur. Ce qu'on a vu sur les investisseurs, c'est qu'ils se sont dit, après l'annonce de Cassandre qui nous expliquait que le marché allait chuter, que les taux allaient s'effondrer, un économiste disait moins 30, les notaires disaient moins 15. Donc forcément, les investisseurs, ils se sont mis en recul, ils se sont dit, on attend que ça arrive. Puisque nous, on a l'argent, on attend que ça arrive. Puis ils se sont aperçus que ça n'arrivait pas. Donc ils sont revenus sur le marché, et en premier trimestre 2021, ça se réaccélère à nouveau. Donc aujourd'hui, les investisseurs achètent. Et voilà, ce qu'ils n'ont pas fait pendant la période d'été, ils sont un peu plus tenus parce qu'ils se sont dit, on va attendre quand même que ça baisse.
D'accord.
Ce qui n'est pas arrivé.
On continue cette météo avec le marché du neuf, toujours très compliqué.
Oh que oui, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, la situation ne devrait pas vraiment s'améliorer à court terme. Les permis de construire chutent de manière vertigineuse de janvier 2020 à janvier 2021. Ils ont reculé de moins 16,4%. Le secteur de l'immobilier neuf prévoit de lancer 316 000 chantiers, soit 35 000 de moins que l'année dernière, avec à la clé une nouvelle flambée des prix. C'est vrai que c'est compliqué pour le neuf, Stéphane.
Alors, c'est compliqué pour le neuf, et je pense que si jamais on doit donner des aides, c'est à cet endroit-là qu'il faut le faire. C'est compliqué pour le neuf déjà depuis plus d'un an, mais c'était déjà compliqué avant. Hein. Aujourd'hui, vous savez, les réglementations pour pouvoir construire, la libération des permis de construire, tout ça est très, très compliqué. Pourtant, il y a des enjeux majeurs pour demain, l'inclusion dans l'habitat, mais aussi la rénovation énergétique. Donc, je pense que c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre des aides, et il faut libérer le neuf, libérer les permis de construire, et raccourcir certainement les délais pour que ça s'accélère, parce que c'est par ce biais-là, qu'on fera descendre la pression des prix et qu'on améliorera le pouvoir d'achat des Français.
Avec des constructions peut-être verticales.
Et pourquoi pas verticales, pourquoi, et en agglomération et en périphérie des agglomérations, évidemment. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire. Il faut remettre à plat la politique du logement dans son entier. On ne peut pas voir l'ancien, on ne peut pas voir la 7 et ensuite le 9. Il faut voir la politique logement de façon globale. Et là, aujourd'hui, on a besoin, le pays, pour pouvoir faire baisser la pression sur le pouvoir d'achat des Français, il faut construire plus vite, inclusif et évidemment respectueux de l'environnement.
On termine avec les taux immobiliers. On le sait, ils sont toujours très, très bas, hein, historiquement bas, moins de 1,2%. C'était les chiffres de janvier-février sur 15 ans ou 20 ans. Mais attention, cela pourrait évoluer.
Oui, en effet. Hein, certains économistes anticipent déjà une sortie de crise très dynamique. Si la relance économique venait à se concrétiser, alors on pourrait assister à un phénomène d'inflation et donc de hausse des taux. Or, si cette hausse est trop brutale, eh bien, elle pourrait exclure les nouveaux emprunteurs primo-accédants en tête. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas vraiment cher d'emprunter à une banque. Si ça change, ça pourrait être un peu plus compliqué.
Stéphane, je vous demande de prendre votre casquette d'économiste. Alors, on le sait, vous êtes partisan de la relance forte. En tout cas, vous pensez qu'on est déjà peut-être sur un train haussier. On va bien finir par en sortir avec les vaccins, etc. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que les taux, à un moment, pourraient remonter? Il y a eu des frémissements sur le taux à 30 ans du côté des États-Unis. On en a parlé. Est-ce que ça pourrait arriver en France? On pourrait avoir une montée brusque des taux d'intérêt?
Je ne pense pas brusque. Brusque, on parle de 1% à 5%, ce qui serait un impact sur l'achat moyen ou sur l'emprunt moyen à 200 000 euros sur 25 ans de près de 500 euros. Donc ça doublerait pratiquement la mensualité. Donc ça contribuerait justement à sortir de l'assiette les bas salaires, les ménages les plus faibles. Ce ne serait vraiment pas une bonne nouvelle. Aucune banque centrale, aucun État n'a intérêt à faire s'effondrer l'économie. Donc aujourd'hui, je pense que les taux vont augmenter. Ce sera une bonne chose au moment d'une relance, au moment où l'économie est forte. Il sera normal, tout à fait normal, que les banquiers, à un moment donné, augmentent leurs taux. Mais l'augmentation de 0,40, par exemple, ce qui serait beaucoup déjà, hein, l'augmentation de 0,40 sur un prêt à 200 000 euros sur 25 ans, c'est à peine 40 euros sur 750 euros de mensualité. Ça l'a fait monter à peine à 790. On n'arrête pas un projet pour ça. Pour le coup, ça servirait un peu les banques et en même temps, ça n'arrêterait pas l'économie. Donc je ne pense pas que ça augmentera fortement. En revanche, une légère augmentation quand la relance sera partie, ce ne sera pas une mauvaise chose.
Eh ben voilà, ça sera le mot de la fin. On va suivre ça évidemment très attentivement. Une année, en tout cas 2021, qui démarre sur les chapeaux de roue, et c'est tant mieux, et on continuera à vous éclairer, hein, sur ces sujets immobiliers. Merci à nos chroniqueuses Bérénice Deville, Elodie Arabel. Merci Alexandra Blanc pour m'avoir accompagné. Merci Stéphane Fritz, président de Guy Hockey. À la technique, c'était Théo Benoît-Hambourg et Pierre-Yves Falson. Bravo messieurs, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du magazine de l'immobilier à l'habitat.
De l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Immo et achetez-louer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et sur toutes les plateformes de streaming.